Content d'être avec vous. Je suis honoré d'être ici dans cette église qui a une réputation partout dans la francophonie jusqu'au Canada français, jusqu'au Québec, bien sûr. Je vous transmets des salutations, du pasteur Claudeau, le pasteur principal de l'église Nouvelle Vie où je suis depuis les débuts. Et c'est merveilleux que le Seigneur puisse nous unir comme ça et pouvoir partager ensemble sa parole. Ce soir, le titre de mon message est « La mort ou la vie ». La mort ou la vie, comme les cow-boys du Texas. La mort ou la vie, la bourse ou la vie, la mort ou la vie. Ce que Jésus peut faire face au revers que la vie apporte. Nous allons commencer notre texte. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn ou Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ce soir, je veux vous raconter une histoire. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle est triste, parce que cette histoire, elle est très triste. L'histoire d'une dame qui avait, au départ, perdu son mari, le texte fait allusion à une veuve. Et c'est la triste histoire, donc, de cette veuve qui avait un fils, son fils unique. Et c'est encore une fois la triste histoire de cette femme qui a perdu son fils unique. On a l'impression, parfois, lorsqu'on regarde la vie ou on regarde la vie de certaines personnes, qu'il y a comme cette concentration de souffrance dans leurs conditions, dans leur vie. De gens qui, souvent, ont été abusés par la vie et deviennent désabusé de la vie. Des gens dont les tragédies s'accumulent au fil des ans, d'une misère qui s'acharne encore sur ceux qui ne peuvent plus en porter. Cette femme, elle est là. Et elle vit ce destin tragique qui, je dirais, est écrit d'avance parce qu'avec la perte de son fils unique, elle sera condamnée à encore plus de souffrance et de misère, non seulement le deuil et tout ça, mais aussi la pauvreté, puisque comme c'était coutume à l'époque, c'est le mari qui prend soin de sa femme et c'est le fils qui reprend soin de sa mère. Personne ne pourra pourvoir à ses besoins. Je vous le dis, c'est une histoire triste, très triste, que je vous raconte. C'est l'histoire d'une mère en deuil. C'est l'histoire aussi d'un village et d'une ville qui est en deuil, une toute petite ville, un village, probablement quelque chose comme 200 ou 300 âmes dans ce petit village. C'est l'histoire d'une communauté, la triste histoire d'une communauté qui est accablée par ce qui arrive encore à cette dame qui était probablement bien connue par la communauté. Parce que dans ces petites villes ou ces petits villages, les vies sont tissées les unes aux autres. Elles sont tissées serrées. Et encore une fois, ce village est témoin. Probablement qu'ils avaient vécu le premier drame de cette femme-là qui avait perdu son mari. Et là, elle vit encore un autre drame et ce sont l'histoire de gens qui sont impuissants devant le drame des autres parce que souvent, c'est ce qui arrive. On est confronté à des choses qui se produisent, qu'on voudrait tellement changer le cours des choses. On réalise notre impuissance, notre incapacité de changer ces choses-là. Et personne dans cette ville, bien sûr, n'a le goût de se réjouir. Donc, c'est l'histoire d'une triste histoire d'une veuve. C'est la triste histoire d'une communauté. Mais dans ce texte, on parle aussi d'un cortège. C'est un cortège qui prend place. C'est un cortège d'une tristesse absolue, bien sûr. Personne dans la ville n'a le goût de se réjouir, de s'égayer, tout ça. Toute la ville est en deuil, tout le village est en deuil, et la procession se poursuit au travers de la ville. Vous avez déjà vu une procession funéraire, je ne sais pas comment ça se passe ici en Alsace, mais nous, on a l'impression que lorsque on doit porter quelqu'un en terre, que le cortège est tellement lent. tellement là, même si maintenant on est habitué avec les autoroutes, même si on est habitué avec les grandes avenues et tout ça, c'est comme si littéralement on voulait retarder ou poursuivre un peu notre refus de cette réalité-là. On ne veut pas que les choses se passent parce qu'on sait que lorsqu'on arrive au cimetière, mais là c'est la fin, là c'est certain, il n'y a plus de retour en arrière. On a l'impression que et c'est lent, de cette lenteur-là, de ce cortège qui est tellement lent et tout ça. Si je vous posais la question, êtes-vous familier avec ce genre de situation-là? Nous avons tous vécu des deuils. Mais moi, j'ai des souvenirs très, très forts et très intenses. J'ai perdu mon père lorsque j'avais 8 ans. Et je pourrais vous parler de la vie ou de la vie qui s'est en allée de la maison avec lui. Je pourrais vous en parler pendant des heures, même si j'étais tout petit. OK? Ma mère qui se trouve veuve au début de la quarantaine avec 4 garçons à prendre soin. Je peux vous en parler pendant des heures et des heures parce que j'ai des images très fortes, comme si les souvenirs étaient imprimés à jamais à l'intérieur de moi. Je pourrais vous parler de la mort de ma mère lorsque j'avais 25 ans. J'ai encore des scènes très, très fortes. Et ce qui est malheureux, encore une fois, j'ai perdu mon épouse il y a 2 mois et demi à peine, OK, qui a été foudroyée par un cancer incroyable. Elle est allée travailler le matin. Ma femme était adjointe d'un chirurgien dans un grand hôpital montréalais. Elle est allée travailler le 23 juin. Elle n'est jamais ressortie de l'hôpital. Ça, c'est la vie dans lequel on est souvent confronté. C'est les genres de situations qu'on ne veut pas voir se passer, mais qui, vous le savez, vous, à la lecture des journaux, lorsque vous regardez le journal télévisé, vous savez que ces choses-là se passent. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe dans la condition de cette femme-là. Et on peut se souvenir de plein de choses en rapport avec ces moments particuliers de notre vie, mais le cortège, il poursuit sa route quand même, comme si la vie voulait continuer quand même à sa procession et tout ça. Comme si, malgré le fait qu'on voudrait retarder le temps ou retarder l'inévitable, il y a cette poussée qui nous amène à l'avant, un peu comme on chantait tantôt que Dieu est là même au cœur de la tempête, mais parfois les vagues sont tellement fortes qu'elles nous emportent avec elles. J'aimerais vous dire ce soir, et vous le savez, qu'il y a un avant et un après ce genre de moment, ce genre de tragédie. La vie n'est plus jamais pareille après. Il y a un avant et après le drame, il y a un avant et un après le secret, les choses que vous savez qui se sont passées dans votre vie que personne d'autre ne connaît. Ça peut être le rejet, ça peut être une trahison, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une blessure tellement profonde, ça peut être un événement malencontreux. Avant, c'est la vie, et après, c'est plus pareil. On a souvent l'impression qu'après, ça va être plus pire ou de pire en pire, mais c'est pas toujours le cas, vous allez le voir dans l'histoire de ce soir. Avant, il y a la joie, il y a l'effervescence, il y a l'innocence, il y a la naïveté. On a l'impression qu'on a cette divine immunité sur notre vie, que vous n'arriverez jamais rien. Et tout d'un coup, on est confronté à cette réalité-là. Ça peut être, encore une fois, la mort, ça peut être... Est-ce qu'on s'habitue à ces choses-là? On ne s'habitue jamais à ces choses-là, parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, tout est à recommencer. Encore une fois, quand je pense à cette scène de ce cortège funèbre, et le cortège se poursuit encore une fois, il est entouré, vous savez un peu comment était la culture à l'époque, la foule elle est là, elle se presse, et la veuve elle est là, et le tombeau elle est là, ce cortège encore une fois qui progresse, qui avance, il y a probablement toutes ces pleureuses que je qualifie de pleureuses professionnelles, parce que parfois on les engageait pour venir pleurer comme s'il fallait ajouter encore davantage à la tristesse. Tristesse par-dessus tristesse. Ces dames vêtues de noir encapuchonnées qui se lamentent littéralement. Vous voyez, c'est fascinant de voir parfois les deuils dans certaines cultures. Incroyable. Comme ça, quelque part, il y a cette concentration de douleur, de souffrance qui s'exprime sans aucune censure. Et quand on regarde ce genre de situation-là et quand on se retrouve, moi, je m'interroge souvent. Je me suis mis à réfléchir à ce que pouvait penser cette veuve en s'en allant sur le chemin pour enterrer son fils unique. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Vous savez, dans les drames, bien qu'on soit bien entouré, on est toujours tout seul. Vous allez dire en ce moment, oh, Dieu est toujours là. Oui, mais il y a cette solitude humaine, cette condition humaine difficile, dans laquelle on se retrouve avec soi-même. Et qu'arrive dans ces moments, lorsque il y a cette lutte intérieure entre le désespoir et l'espoir, et tout d'un coup, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi penser. Et je me suis imaginé, justement, dans ce tableau-là, que cette dame-là devait chercher quelque chose, devait se poser des questions. Peut-être qu'elle était envahie de pourquoi, et de pourquoi moi, pourquoi encore nous, j'avais déjà vécu ce drame, pourquoi mon fils, et c'est quoi ce destin, qu'est-ce qui se passe avec la vie? Peut-être qu'elle était révoltée et tout ça. Et souvent, c'est le cas. On se révolte, on se pose des questions. Mais à un moment donné, dans cette quête d'espoir, on se met à chercher à l'intérieur de soi. Moi, je me souviens, j'ai passé 159 jours avec mon épouse, à chaque jour, à l'hôpital avec elle. 3 chimios. Maintenant, j'étais seul, j'étais inconnu, je racontais au pasteur. Personne ne me connaît dans ce grand hôpital-là. Je ne suis pas le pasteur de Limoricette, je suis complètement inconnu. Et je me retrouve tout seul et démuni et à chercher à l'intérieur de moi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? J'ai prêché sur plein de choses dans ma vie, sur les crises, mais là, c'est moi qui suis encore une fois, pour la troisième fois, accablé par la situation. Et je suis capable de comprendre cette veuve-là. Et je suis capable de sentir ce qu'elle éprouvait. Elle fouille à l'intérieur d'elle-même, elle puise au plus profond de sa pensée. Et j'ai osé m'imaginer ce qui s'est passé. C'est que ce nombre de versets, je ne sais pas ce qu'elle pouvait lire, je ne sais pas quelle était sa foi, mais je me suis imaginé un petit peu qu'elle était un peu comme Job. Vous allez voir le texte. Elle arrive tout près du cimetière, à l'approche du cimetière, qu'est-ce qu'elle se dit? « Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués sans force. » Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme et qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'âme qui ne sait où aller, et que Dieu sème de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, et il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Car la main de Dieu semble m'avoir frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand j'en aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est ce que j'ai imaginé. Maintenant, c'est bien certain que ce n'est pas conforme à la réalité. Je ne sais pas si elle a pensé ça. Mais essayez d'imaginer encore une fois ce cortège qui s'en va dans la direction du cimetière. Et en cours de route, la dame, elle pense à ça. Et tout d'un coup, elle va puiser au plus profond. Elle dit, je sais que mon Rédempteur vit. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il y a un autre cortège qui pénètre dans la ville. Le texte nous dit qu'il y a un autre cortège qui se manifeste. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait un mort. Il y a un cortège qui s'en vient, qui rencontre cet autre cortège. Voici, on portait un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Il lui dit, ne pleure pas. Ce texte ne nous parle pas d'un seul cortège, mais nous parle d'un autre cortège, d'un second cortège. Jésus entre dans la ville de Naïn et il y a un autre cortège qui s'en vient à son encontre. Il y a Jésus, il y a ses disciples, il y a une grande foule. D'un côté, il y a une foule en deuil. De l'autre côté, il y a une foule en liesse parce que Jésus a fait un miracle dans les heures précédentes. Deux cortèges, je vous dis, deux cortèges. Un sort du village et un autre entre au cœur de la ville et de l'activité humaine. Un qui quitte le village pour aller au cimetière, témoignage de la faim. Deux cortèges. Mais il y a plus que cela. Essayez-vous aller dans votre imagination. En fait, vous allez voir sur la prochaine diapo, il y a un cortège de tristesse d'un côté, mais un cortège d'allégresse de l'autre côté. Il y a un cortège de désespoir et un cortège d'espoir. Il y a un cortège de pleurs et un cortège de rire, probablement. Un cortège de gens le dos courbé par la douleur et un cortège de visages rayonnants. Un cortège de mine sombre et un cortège de cœur exalté. Un cortège de peur et un cortège de foi. Un cortège de fatalité, la mort elle est là, et un cortège de possibilité. Un cortège de souffrance, mais un cortège d'espérance. Un cortège de gens unis par la douleur et un cortège de gens mus par, par le bonheur, par une joie indicible. Un cortège de gens convaincus que la mort est plus forte et un cortège qui est convaincu que la vie est plus forte. Et d'autres assurés que la vie est plus forte que la mort. Un cortège de mort et un cortège de vie. Ce que je vous annonce, c'est qu'il vient d'avoir une collision entre deux cortèges. Les deux cortèges se font face, ce cortège de mort et ce cortège de vie. Et encore une fois, on peut s'imaginer, et le texte est puissant et fascinant parce qu'il y a ce combat entre, d'un côté, entre deux options, en fait, entre l'option de la mort, la fatalité, et l'option de la vie. Et vous voyez pourquoi je vous ai parlé de la mort ou la vie? La mort ou la vie, parce que c'est ce qu'on doit choisir, vous et moi, c'est ce qu'on doit saisir, puisque toute autre chose, cette notion de la vie, et non seulement de la vie dans le sens purement biologique, mais de la vie, de l'effervescence de cette vie, de ce que Dieu nous offre, parce que Dieu nous a offert la vie. Et souvent, les gens, lorsqu'ils entendent ce don qu'on appelle de la vie éternelle, ils pensent que c'est la vie après la vie, dans l'au-delà, après coup. Mais moi, j'appelle ça la vie dans la vie. La vie avec un grand V dans ma vie. La vie dans la vie. La vie de Dieu dans ma vie. Et qui amène plein de possibilités, plein de perspectives de changement. Alors, ce cortège, il est là. Et ces deux univers qui se rencontrent, ces deux mondes, littéralement, qui symbolise à la fois aussi, je dirais, une métaphore ou une représentation de ce que l'Église pourrait être avec ce monde autour de nous, ce monde qui est tellement sombre et parfois tellement ténébreux, et l'Église qui est porteuse de vie, littéralement. Entre chacun de nous qui devrions être porteurs de cette vie, de cette effervescence de la vie, que rencontrons tellement de gens qui, à l'intérieur, sont complètement morts et éteints. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? La mort ou la vie? La mort ou la vie? Le texte nous dit que Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » C'est une histoire, encore une fois, merveilleuse. C'est une histoire qui nous amène à saisir qu'il y a autre chose au destin implacable de la vie. Que parfois, on est tellement renversé par les choses qui nous arrivent. Parfois, on est tellement submergé et subjugué par tout ce qui se passe qu'on en vient à perdre de vue tout l'espoir et la possibilité qui se manifeste. On a vécu des drames, vous avez vos histoires. Élie Wiesel, le prix Nobel de la paix, a dit un jour que Dieu a créé les êtres humains parce qu'il aimait les histoires. Je ne suis pas sûr que c'est très théologique, mais c'est une superbe, belle représentation parce que vous et moi, ce sont des histoires. On n'est pas juste des... Moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos histoires, mais chacun de vous, si on avait l'occasion de s'asseoir et de prendre un café ou une tisane, vous pourriez me raconter votre histoire et je découvrirais plein de choses qui sont survenues dans votre vie et qui vous caractérisent. Vous êtes le résultat de votre histoire, en fait. Puis un jour, Dieu a vraiment percé votre histoire, il s'est révélé à vous, comme il s'est révélé à moi, et les choses ont commencé à changer. Ce soir, c'est un peu dans la même perspective. Cette dame-là, cette veuve désespérée, qui ne voit plus de possibilité pour le futur, arrive face à face avec son Rédempteur et face à face avec son Sauveur. Et ce soir, je voudrais vous proposer 7 choses que cette veuve a découvertes sur Jésus. Encore une fois, vous avez le conflit ici entre la religion pure et simple, de gens religieux, et je ne dis pas ça dans le sens nécessairement péjoratif, de gens qui sont habitués dans un rituel, dans un culte. Peut-être qu'elle avait une foi quelque part, mais là, elle est confrontée à la réalité ou à la percée du Dieu vivant qui se retrouve devant elle, et les choses vont commencer à changer. 7 choses que cette veuve a découvertes sur la personne de Dieu. En fait, 7 choses que cette veuve a découvertes sur Jésus, sur Dieu littéralement dans la personne de Jésus qui se trouve devant lui. Premier point ce soir, elle a découvert que Jésus n'est pas un sauveur inconscient. Vous savez, on s'en va dans la vie, et parfois, on dit au Canada, on est comme dans notre bulle. On s'en va comme ça, la vie, on dit métro, boulot, dodo, OK? On n'est plus dans cette effervescence de la vie, et on pense que Dieu, quelque part, est tellement loin de nous qu'il ne voit pas ce qui se passe dans nos propres vies. Combien de fois on s'en est aperçu, Seigneur, est-ce que tu pourrais me regarder un tout petit peu ma condition? Est-ce que tu sais que j'ai des comptes à payer? Est-ce que tu sais que mon mari est comme ceci? Est-ce que tu sais que ma femme est comme ça? Est-ce que tu sais que mes enfants ne m'obéissent pas et tout ça? Est-ce que tu es au courant? Dans ce contexte-là, le texte nous dit que Jésus l'ayant vu. Jésus a vu. Savez-vous pourquoi Jésus a vu? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a vu? pour 200 euros. Est-ce que quelqu'un me dit, peut me dire pourquoi Jésus a vu? Il y a une toute petite réponse bien simple. Et la réponse, ce n'est pas parce qu'il est conscient. Il a vu parce qu'il regardait. C'est simple. C'est simple, mais c'est une vérité profonde. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans la vie parce qu'on ne regarde pas, parce qu'on ne prend pas le temps nécessaire. Jésus, il est là, et le texte nous dit qu'il la vit, qu'il la voit. Et encore une fois, beaucoup de gens croient que Jésus est déconnecté de la réalité de ce qui se passe dans nos propres vies. Et je vous le dis, Jésus voit les choses. Il ne voit pas toujours les choses comme nous, mais il voit les choses, il voit ce qui se passe dans notre vie. N'est pas un secret pour lui. Il voit même les pensées les plus profondes de nos cœurs, nos aspirations, nos rêves, nos remises en question, nos doutes. Jésus voit les choses. Jésus voit, le Seigneur l'ayant vu. Regardez bien ce que le texte nous dit dans Marc. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus voit notre condition. Cette femme a découvert ce jour-là que Jésus n'était pas un Jésus inconscient. Il n'était pas un Jésus fermé, dont l'entendement était fermé. Deuxième chose que cette femme a découvert ce jour-là, c'est que Jésus n'est pas insensible. La Bible dit, le texte nous dit dans la même histoire, que Jésus fut ému de compassion pour elle. Prochaine diapo. Jésus fut ému de compassion pour elle. Jésus n'est pas insensible. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est deux choses. Il y a une portion de la compassion qui est très centrée sur le cœur. C'est la capacité de ressentir ce que les gens éprouvent. Encore une fois, cette compassion-là, cette sensibilité-là, elle est rattachée à la conscience, à la capacité que nous avons de voir, de saisir ce qui se passe dans la vie des autres. Ici, on reste tellement détaché avec les gens. En ce moment, si je vous prêche comme ça, je ne peux pas vous voir. Je peux vous imaginer, je peux déduire que, mais je ne vous vois pas. Il faut que je fasse un contact avec vous. Mais à partir du moment où mon regard croise le vôtre et que je me rapproche davantage de vous, je vais commencer à éprouver quelque chose. Ça peut être de l'affection, ça peut être de l'attraction, comme ça peut être de l'aversion. Ça va susciter quelque chose. Le texte nous dit que Jésus l'a vu, a vu sa condition et fut ému de compassion. Donc, l'émotion est un élément très, très rattaché au sentiment et au cœur. Il éprouve quelque chose et c'est ça la force de la compassion. Mais la compassion, ce n'est pas juste d'éprouver quelque chose. Il y a plein de gens qui éprouvent et qui éprouvent et qui éprouvent et qui sentent et ressentent et tout ça. C'est aussi la capacité de comprendre. Donc, c'est une dimension qui est très rationnelle. Quand on se penche pour comprendre la condition des gens, on commence aussi à être ému par leur condition, par ce qui se passe dans leur vie. On peut rester tellement loin, tellement détaché, ou on peut se rapprocher. Maintenant, vous devinez avec moi que c'est coûteux de se rapprocher. Parce que lorsqu'on commence à éprouver quelque chose, il va falloir arriver à poser un geste. On peut juste simplement, une fois, vivre une émotion bien simple, bien comme ça. J'éprouve de la compassion pour ce frère, pour cette sœur. Je suis touché parce qu'il vit, mais sans rien faire. Mais sans rien faire de plus. Il faut que la sensibilité nous pose dans une direction. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà réfléchi au mot « émotion » Si je vous posais la question ce soir, mais qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce qu'au juste qu'une émotion? Pour vous donner une réponse bien, bien simple, prenez le mot « émotion » et coupez-le. Prenez le « e » pour « énergie » et l'émotion pour « se mouvoir ». Donc, littéralement, une émotion, c'est de l'énergie en émotion. Quand on est ému, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous. Ça nous amène à poser des gestes. Rappelez-vous, dans la parabole du bon samaritain, il fut ému de compassion et s'approcha. Voyez-vous, donc, par l'émotion, il commence à bouger, il commence à aller dans une direction possible. Donc, l'émotion, où on la represse, où on l'utilise pour nous rapprocher encore davantage des gens. Et dans le sens grec, cette notion de compassion, c'est littéralement être retourné à l'intérieur ou être incapable de tolérer à l'intérieur ce malaise-là ou tout ce qui se retourne à l'intérieur de nous et ça nous pousse à poser des gestes. Jésus n'est pas inconscient, Jésus n'est pas insensible. Le texte nous dit, encore une fois, un peu plus loin, que c'était l'habitude de Jésus d'éprouver de la compassion. Voyant la foule, dans Matthieu, chapitre 9, il dit, « Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Encore une fois, vous voyez dans ce texte-là juste le jumelage entre la vue et le sentiment. Voyant la foule. Il voit la foule et cela pénètre à l'intérieur de lui. Moi, je dis souvent la blague aux gens. La vie, vous savez, la vie, tout se joue dans l'œil. Dans l'œil? Oui. Dans le regard que l'on pose sur les événements. On ne voit pas tous la même chose, puis on n'éprouve pas tous les mêmes émotions. Okay? Tout se joue dans le sens que nous donnons aux situations. Jésus, quand il voyait quelque chose, il voyait la condition humaine, il était ému de compassion. Beaucoup de gens ont une image d'un Dieu tellement lointain, et non seulement d'un Dieu lointain, mais aussi d'un Dieu insensible, dans le sens d'un Dieu qui est assis sur son trône, et c'est un peu comme s'il disait à la planète Terre, « Vous n'avez qu'à obéir à mes commandements, et si vous souffrez, c'est parce que vous ne m'avez pas obéi. Et restez là, et subissez. » Ça prend un effort, je dirais, pour tenter de progresser, pour dire, est-ce que Dieu éprouve quelque chose à mon égard? Il y a plein de gens ici ce soir que vous ne croyez pas que Dieu est ému envers vous. Vous voyez Dieu comme une somme de versets ou de textes, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, mais vous n'avez pas cette personne divine qui est émue de compassion. Dieu est ému devant moi. Ah, Dieu peut être ému devant des gens qui ont des plus grandes tragédies. Non. Parce que pour Dieu, toute l'humanité est comme une seule personne. Dieu a cette capacité d'éprouver des choses pour chacun de nous. Pour vous, comme pour moi, dans nos conditions. Il faut être capable de faire ce passage-là. Cette dame a compris ce jour-là que Jésus n'était pas insensible. Il fut ému de compassion pour elle. Mais troisièmement, Jésus n'est pas impertinent. Il lui dit, ne pleure pas. Écoutez, facile de ne pas pleurer dans une condition, mais tu n'es pas dans ma condition, Seigneur Jésus. C'est comme si, quelque part, il passe à côté d'un certain protocole. Vous savez, quand on a affaire avec des gens qui souffrent, des gens qui pleurent et des gens qui sont en sanglots, l'expression « ne pleure pas », c'est facile à dire. « Je voudrais bien te voir à ma place. » Ce que tu ferais quand tu es à ma place, surtout quand on est endeuillé et tout ça, il y a une charge d'émotion qui est incroyable qui est là. La veuve n'avait plus rien. Elle souffre. Vous savez, je crois sincèrement, et ne vous sauvez pas, je crois sincèrement que Dieu est injuste. Oui, je crois qu'il a un parti pris pour ceux qui souffrent. Je crois que Dieu a une sensibilité particulière. Je suis en train de créer une nouvelle hérésie, là. Il y a tellement de textes. En anglais, il y a un mot qu'on utilise pour les gens démunis, les gens qui dans la vie n'ont jamais la chance d'émerger. On appelle ça des underdogs en anglais. C'est comme des gens qui, on passe à côté, on les méprise, on ne les voit pas, ce sont des petites gens. Toutes les fois que moi je relis les évangiles, je vois Jésus, il y a comme cette force d'attraction envers ces gens-là. Des gens que les gens rejettent, des gens que les gens ne veulent pas voir. Puis d'un coup, Jésus, lui, je pense à Zachée, là. Je pense juste à Zachée qui me vient à l'esprit, le gars le plus maîtrisé de son patelin, le gars que tout le monde, le gars à la solde de Rome et tout ça. Puis, Jésus décide d'aller souper chez lui, d'aller dîner chez lui, comme vous dites ici. Plein de situations. La femme adultère, que tout le monde était prêt à lapider, puis Jésus prend parti pour elle. Il y a plein de la femme samaritaine. Plein de textes. Bartimée l'aveugle. Plein de textes comme ça. Alors, quand je vois Jésus dans un contexte comme ça, il est seulement égal à lui-même. Il est touché par notre condition. Peut-être ce soir, vous vous dites, moi, je suis passé pour lui, je ne fais pas de grandes choses, je ne suis pas un pasteur ou je ne suis pas... Non. Il n'y a pas besoin de qualification pour cela. Parce que l'amour de Dieu s'adresse à toute personne, peu importe sa condition, peu importe sa réputation. Cette femme a découvert ce jour-là que Jésus n'était pas impertinent. Il n'est pas à côté de quelque chose. Dieu se plaît dans la douleur des hommes parce que c'est là qu'il peut être à son mieux. C'est là qu'il console, c'est là qu'il restaure, c'est là qu'il prend soin. Et laissez-moi vous dire que ce que je vous dis, je le crois parce que je viens tout juste de le vivre. Dans les drames de notre vie, Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il n'est pas impertinent, il n'est pas à côté de nous, il n'est pas trop loin de nous, il n'est pas à côté du sujet, comme on dit communément. Parfois, on pense qu'on est autosuffisant, qu'on a besoin de son amour-là. Je vous dis ça pour une chose. C'est la première fois que je viens ici. Vous ne me connaissez pas. Je suis, bien sûr, beaucoup plus connu au Canada. Moi, depuis 30 ans, je suis dans la relation d'âme. J'ai pris soin de centaines, probablement des milliers depuis 30 ans de gens. J'étais en charge dans mon église de tout ce qu'on appelle le département des soins aux gens pendant 15 ans. Et j'aime ça prendre soin des gens. Je vous dis, je suis à mon aise de prendre soin des gens. Mais c'est beaucoup plus difficile de se retrouver dans la position inverse. Et pendant les 3 derniers mois, des gens ont pris soin de moi. Mon église a pris soin de moi. Mes collègues, pasteurs ont pris soin de moi. Je me suis trouvé dans une autre position, mais je me suis trouvé dans un moment de grâce incroyable à me laisser soigner par Dieu. Comme si, Seigneur, je vais m'en occuper. Je vais être fort. Je vais être courageux. Puis Dieu dit, non. Laisse-toi bénir par moi. Laisse-toi rencontrer par moi. Les pasteurs, vous allez comprendre ce que je dis. On est habitués, nous, de travailler dur, de bosser dur, comme vous dites. On est habitués de prier puis de faire face aux situations. Puis on développe même parfois une espèce de déformation, c'est-à-dire qu'on devient tellement en mode proactif et tout ça que de se retrouver dans une autre position, ça devient inconfortable. Mais lorsqu'on donne tout l'espace nécessaire, c'est étonnant comment Dieu se met à agir. Comme on dit, Seigneur, excuse-moi, je reconnais devant toi que je suis impuissant devant la condition. J'ai beau avoir tous les talents. Seigneur, en ce moment, je ne peux plus. J'ai besoin de toi. Et Dieu se révèle dans ces moments-là de façon tellement incroyable et tellement extraordinaire. C'est ce qu'elle vit, c'est ce qu'a vécu cette dame inconnue. On ne sait même pas le nom. Toute petite histoire, quelques versets à peine. Et qui démontre tellement une force incroyable d'arrêter Jésus. Quatrièmement, Jésus n'est pas un sauveur inaccessible. Le texte nous dit qu'il s'approcha et toucha le cercueil. Vous savez qu'ici, en ce moment, c'est à la limite de l'offense. Vous savez qu'il est même aussi en contradiction avec les textes de l'Ancien Testament qu'il ne fallait pas s'approcher d'un mort. Jésus bouscule les choses. Il s'approche et touche le cercueil. S'il y avait des gens hyper religieux tout autour de lui, ça devait être le scandale. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il dit à la dame de ne pas pleurer, je voudrais bien le voir à sa place. Et en plus, il est là et touche le cercueil. Il s'approche, il n'est pas inaccessible. Mais encore une fois, je reviens beaucoup sur cette notion de conception que vous avez de Dieu. Parce que ce dont je me rends compte, et ce que je rencontre le plus souvent dans ma vie, c'est des gens qui ont tellement peur de Dieu, qui ont tellement c'est une chose d'avoir la crainte de l'Éternel, c'est une chose de toujours constamment vivre dans la peur d'un Dieu qui... Vous savez, parfois, la description qu'on fait de Dieu, ça ressemble davantage au Dieu de la mythologie grecque et romaine, avec les éclairs dans les mains, prêt à nous foudroyer, qu'un Dieu d'amour. Je voudrais vous dire que le christianisme, que la venue sur terre a changé sur la perception qu'avaient les hommes de la personne de Dieu. Dieu, tout d'un coup, il est à la limite presque humain. Il ressent des choses, il voit des choses, tous des attributs qui sont humains. Dieu voit les gens, Dieu est ému, Dieu s'approche, Dieu est accessible. Elle a découvert ce jour-là, cette dame-là, elle a découvert que Jésus était accessible. Qu'est-ce que la Bible dit? Que je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Rien ne peut me séparer de Dieu. L'obstacle entre vous et Dieu ne provient pas de Dieu, il provient de nous. C'est nous qui mettons les barrières. Cette femme a découvert ce jour-là que non seulement Jésus n'était pas inconscient, qu'il n'était pas insensible, qu'il n'était pas impertinent, qu'il n'était pas inaccessible, mais elle a découvert que Jésus n'était pas impressionné du tout par la condition, par sa situation. Il arrête un cortège funèbre. Le texte dit « ceux qui le portaient s'arrêtèrent ». Encore une fois, j'aimerais vous dire, moi j'ai fait beaucoup de funérailles dans ma vie, comme pasteur. Vous savez, au Canada, les pasteurs ont deux fonctions. Il y a une fonction très spirituelle, mais une fonction aussi d'officier d'État. On a une fonction juridique. Donc quand on va faire des funérailles, il y a tout un protocole qui est là aussi. Bon, on prend soin des frères et des sœurs de la famille et tout ça, mais c'est un peu plus, il y a une portion beaucoup plus sociale et beaucoup plus, c'est une question d'être reconnu un petit peu par l'État dans ce genre de fonction-là. Et vous savez, quand on arrive dans un salon funéraire, j'ai fait des funérailles, j'ai fait un funérail une fois d'un bébé qui tenait dans une boîte de chaussures, OK, comme ça. Vous imaginez-vous que c'est assez triste comme atmosphère et tout ça. Et ce qu'on sait quand on fait des funérailles, c'est que tout un protocole à suivre. Premièrement, on ne parle pas fort, on ne parle jamais fort, on ne lève pas la voix, on ne fait pas de blagues, ce n'est pas l'endroit pour faire des blagues. Vous savez, mais il y en a qui ne savent pas, il y a des gens qui rentrent dans ce qu'on appelle ça un salon funéraire au Canada. Vous appelez ça comme ça ici? OK? Donc, il y a tout un protocole à faire. Est-ce que vous savez ici qu'il y a des choses qui ne se font pas? On ne peut pas s'imposer, on ne peut pas forcer. Encore une fois, c'est presque diplomatique et protocolaire. C'est comme il y a tout un contexte très particulier. Puis là, Jésus, d'un coup, arrête le cercueil. On peut encore une fois s'imaginer ce que les gens peuvent penser tout autour de lui, et ceux qui le portent arrêtent et tout ça. Et qu'est-ce qu'il est sur le point de faire? On le sait parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Ça ne va pas? Pourquoi tout s'arrête et tout ça? On peut s'imaginer aussi la veuve qui se pose la question, mais pourquoi tout s'arrête tout d'un coup? Pourquoi? On est en route vers le cimetière, on est en route vers la fin, la finalité, la fatalité de toutes choses, et là, tout s'arrête. Vous savez, encore une fois, ce qui est fascinant, c'est que Jésus n'est pas impressionné par les règles, par les lois. Il a guéri le jour du sabbat, contrariant tous les gens qui étaient autour de lui. Parce que la force de Jésus, c'est quand il veut faire quelque chose, il se rend jusqu'à la finalité. Il le fait jusqu'au bout. C'est nous, souvent, qui sommes un peu coincés, qui sommes un peu contenus dans toutes nos choses, parce qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais je comprends maintenant qu'il y a le savoir-vivre, que la bienséance, je connais tous ces principes-là, ma maman m'a bien élevé à ce niveau-là. OK? Et par contre, parfois, il y a tellement de bienséance, il y a tellement de règles, il y a tellement de rituels que jamais on arrivera à notre fin. Là. Est-ce qu'on peut, 10 ans, on va être en couple avec la même situation. Il faut passer à autre chose. Jésus arrête, puis il sait où il s'en va. Il sait ce qu'il s'en va, il sait ce qu'il va faire. Et le texte, un peu plus loin, nous dit, encore une fois, dans l'Évangile de Luc, « Allez à raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent et les morts reviennent à la vie. » Là, on n'est plus dans la religion. Là. On est dans la réalité de la vie. Et la force de Jésus et la force du christianisme, c'est cette percée entre le ciel et la terre. Encore une fois, au risque de me répéter, on est habitué dans notre petite vie, notre petite routine, puis on perd de vue ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça un breakthrough, une percée, comme si quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Imaginez encore une fois, Paul, sur le chemin de Damas, s'en allait avec ses amis pour aller persécuter l'Église et aller chercher des lettres pour les condamner et tout ça. Tout d'un coup, sur le chemin de Damas, il y a une percée phare où ce que la vie va changer. Et tantôt, je vous disais, il y a un avant et un après. C'est vrai pour les drames, mais c'est vrai pour l'action de Dieu. On peut tous dire à quelque part dans notre vie, avant le drame, voici ce que j'ai vécu, ce que j'étais. Après le drame, voici ce qui m'est arrivé. Mais après l'arrivée de Jésus dans ma vie, voici ce qui a changé et voici ce qui s'est passé au juste. Alors, Jésus n'est pas du tout impressionné. Sixième chose, Jésus n'est pas impuissant devant les drames de nos vies. S'il a vaincu la mort, il peut vaincre n'importe quoi. Il dit, lève-toi, et la mort s'assit, se mit à parler. Comme si rien n'était et tout ça. Et c'est pas incroyable. C'est juste la nature propre de Jésus, la nature profonde de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est la force de la vie. C'est la force et la puissance de la vie. C'est puissant, la vie. La vie, vous avez de la difficulté à le croire, mais c'est plus fort que la mort. En m'en venant ici, j'étais avec deux de mes fils qui sont venus me mener à l'aéroport sur Montréal. Et on était à l'intersection en voiture. Et vous savez, il y a beaucoup de neige au Québec. Il fait à peu près moins 15 en ce moment. Et malgré que la neige a fondu il y a à peu près une semaine pendant 3-4 jours de temps doux et tout ça. Et quand la neige fond, le paysage est pitoyable dans les rues et tout ça, parce que la neige passe d'une blancheur à un côté grisâtre, tu sais, avec le sel pour toutes les voies, déglacer les voies, et ce qu'on appelle le calcium, et toute cette espèce de bois. OK, mais on regarde ça, puis en plein milieu d'un immense amoncellement de neige grise et sale et noire, il y avait un arbre. Puis mon fils m'a dit, je me demande comment l'arbre fait pour rester vivant dans un amoncellement de saleté comme ça. Puis je lui réponds, garde à l'esprit cette image. La vie, elle est plus forte que la mort. La vie, elle est toujours plus forte que la mort. Mais il faut élever. Et le Dieu que l'on sert, c'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu de la vie. De cette effusion de la vie, c'est de cette force que constitue la vie. Donc Jésus n'est pas impuissant devant les situations de notre vie. Parce qu'il est plus fort que tout ça. Et certains d'entre vous, ça va être le défi ce soir, c'est de commencer à élever votre foi vers quelque chose de plus. Pour que votre foi puisse changer d'étape ou changer de stade, il faut que votre entendement change. Et si c'était possible? Et si c'était possible? Si un jour vous venez me voir au Canada, vous n'êtes pas tous en même temps, mais si vous venez me voir au Canada, vous allez remarquer une chose. Si vous venez à mon bureau, vous rentrez à mon bureau à l'église ou tout ça, vous asseyez devant moi, j'ai une plaque sur mon bureau qui fait face aux gens. Vous savez ce que c'est marqué sur ma plaque? Je l'ai depuis plus de 25 ans. Marqué « Tout est possible ». Juste, tout est possible. Et c'est fascinant parce que je découvre les gens juste à leur réaction à ce qui est écrit sur la plaque. Parce que quand j'aime me voir, comprenez bien que ça va mal. Elle regarde la plaque. Elle dit, tout est possible. Mais tout n'est pas possible quand même, tout n'est pas possible. D'ailleurs, les gens se mettent à parler avec ma plaque. C'est incroyable. OK? Et je fais toujours la même blague avec eux. Je leur dis, c'est marqué tout est possible. C'est pas indiqué tout est facile. C'est marqué tout est possible. Ce soir, je vous pose la question. Combien de gens ici croient que tout est possible à Dieu? Amen. OK. Tout le monde à l'unanimité, vous avez levé les mains. Je vais avec une seconde question. Combien de gens ici croient que tout est possible à celui qui croit? Vous êtes un peu plus réservé, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que même un enfant à l'école du dimanche croit à l'omnipotence de Dieu. C'est un principe, omnipotence, omniscience, omniprésence. C'est élémentaire, mon cher Watson. Mais d'impliquer ma foi dans le dénouement de ma vie, c'est exceptionnel. Et là, on sépare ce que j'appelle les adultes des enfants. Parce que là, il faut que notre foi soit davantage axée. D'ailleurs, on va en reparler cette semaine. Jésus n'est pas impuissant. Je dois croire qu'il est capable de faire les choses. Mais on poursuit notre texte en s'approchant de la conclusion. Septième chose que cette dame a découvert, c'est que Jésus n'est pas un sauveur inconséquent. Le texte nous dit que Jésus le rendit à sa mère. Vous, le miracle, je sais où vous le voyez. Vous le voyez, le miracle? Vous le voyez dans la résurrection du Fils. Le mort est revenu à la vie. Mais le problème que Jésus a résolu ce jour-là, ce n'est pas le problème du Fils. Le Fils, lui, reposait en paix. Il a résolu le problème de la mère. C'est elle qui avait un problème. Jésus n'a pas été ému de compassion devant le corps de ce garçon-là. Il a été ému de compassion devant une mère qui était en deuil, qui était attristée. Le problème qu'il a résolu ce jour-là, ce n'est pas le problème du garçon. C'est le problème de la mère. Et en ce sens-là, lorsque Jésus le remet à sa mère, c'est comme s'il disait, « Voici, ton problème est résolu. Voici, maintenant, tu n'as plus à être triste. J'ai réparé la situation, j'ai restauré toutes choses, et j'ai remis toutes choses comme ça aurait dû être. » Jésus le rend à sa mère, et il était ému de compassion pour elle et non pas pour le mort. C'est pour une pauvre veuve, inconnue, perdue, qu'il a fait ce qu'il a fait. Et vous connaissez la conclusion. C'était tellement percutant comme intervention divine que tous furent saisis de crainte. Maintenant, pas encore exaltés, tous furent saisis de crainte, mais après ça, ils se mirent à glorifier Dieu en disant, un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Wow! Dites avec moi, wow! Ça, c'est québécois. Okay? Vous commencez à parler québécois. Maintenant, comprenez-moi bien. Est-ce que je vous ai dit, au tout début de ce message, qu'il y avait deux cortèges? Oui. Je vous annonce une nouvelle. Il n'y a plus deux cortèges. Il y en a un seul maintenant. Parce que la mort a rencontré la vie et la vie a submergé la mort. Et ce cortège funèbre et funeste et morbide et tout ça s'est changé en cortège d'allégresse. Ils se mirent tous à glorifier. Vous pouvez imaginer, probablement que le second cortège, c'était l'explosion incroyable de gens. On n'a jamais vu ça, c'est incroyable. C'est tout ce qui se met à changer. Oui, il y en avait deux au commencement. Maintenant, il n'en reste plus un. Mais à la fin du miracle, quand ce miracle a pris place, se fait un cortège de joie. Il y en avait juste un. Qu'est-ce que la Bible dit? Ô mort, où est ta victoire? « Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la force. C'est ça la réalité. Maintenant, pour vous ce soir, rappelez-vous les paroles de Paul qui dit que le Dieu auquel Abraham a cru est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Accompagnez-moi bien. Je vais demander aux musiciens de s'approcher tout doucement. Si les gens de louange peuvent s'approcher. Écoutez-moi bien. Ne pensez pas, on ne se connaît pas, c'est la première fois que je suis ici, mais je veux juste vous illustrer que je passe mes journées avec des gens qui sont mal en point. avec des gens qui leur est arrivé des drames dans la vie, des gens qui vivent des crises incroyables, des gens qui sont en proie à la dépression, à l'épuisement, des gens dont leur mariage se sont effondrés, des gens qui ont perdu des enfants. Or, quand je vous parle de la façon dont je vous parle ce soir, ne croyez pas que je ne saisis pas ce que les gens peuvent vivre sur la planète Terre. Je le saisis. Mais de même qu'une réalité de la condition humaine, de même qu'une réalité divine et spirituelle. Et la représentation de l'ensemble de ce texte nous démontre que Dieu s'intéresse à la condition humaine, comme Jésus s'est intéressé à cette dame-là et qu'il veut percer ça. Pendant que les musiciens vont commencer à jouer tout doucement, j'aimerais que vous puissiez quelques instants à réfléchir un petit peu à votre condition. Cette femme-là a découvert que son rédempteur était vivant. Ce soir, je voudrais faire un appel tout doucement envers vous, en vous posant la question bien simple. Qu'est-ce qui est mort dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est éteint tout doucement depuis toutes ces années? Quel événement, quelle tragédie, quelle situation tragique s'est passée? Qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui a éteint la vie dans votre vie? Peut-être que vous êtes même chrétien de longue date. Vous êtes fidèle, vous venez trois fois par semaine à l'église, vous payez votre dîme, vous chantez les chants. Mais au plus profond de votre cœur, il y a quelque chose qui s'est éteint depuis tellement longtemps. Peut-être que les gens, même autour de vous, ne s'en aperçoivent pas. C'est comme si tout doucement, il y avait une espèce de fuite dans votre vie et que littéralement, la vie s'est en allée. Vous suivez les choses, mais vous sentez que vous êtes éteint. Vous ne vous animez plus, vous ne riez plus, vous ne rêvez plus. Vous n'imaginez plus ce que pourrait être l'avenir et tout ça. Moi, je ne sais pas quel événement, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut changer les choses. Ce que je sais, c'est qu'il est l'auteur de la vie. Et celui qui, originellement, nous a donné la vie, quand on est venu au monde sur cette terre, est aussi celui qui veut donner la vie, la plénitude de la vie. Alors, je vous pose la question ce soir, qu'est-ce qui est mort dans votre vie? Pourquoi elle n'est plus là, la vie? Peut-être c'est un événement tragique, encore une fois, qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est produit, mais quelque chose qui a fait mourir à l'intérieur de vous quelque chose. Et vous le sentez. En fait, vous ne le sentez plus. Et vous ne voyez plus le jour où tout ça va se mettre à changer. Mais vous êtes ici cette semaine parce que vous croyez encore, parce que vous avez cette parcelle de foi et que vous voulez recevoir le Dieu. Pendant que les musiciens vont commencer à jouer tout doucement, ils vont commencer ce chant, le chant de clôture ce soir. Je vais vous demander à tous de vous lever à vos places. Et ceux en ce moment particulièrement qui ont été, que vous ressentez à l'intérieur de vous-même toute cette mort qui est là, la mort dans l'âme. Pas la mort physique. On sait bien, on s'entend bien. Tout un symbolique ici. Mais de Dieu qui veut vous dire ce soir, je veux que tu passes de la mort à la vie. Je veux que ce qui est inanimé en toi revienne en vie. Je veux refaire les choses. Je veux revoir ta vie. L'histoire n'est pas terminée. J'ai quelque chose pour toi. Dieu connaît, Dieu sait. Particulièrement ce soir, les gens qui ont vécu des choses très, très secrètes. Parce que parfois, ce qui est survenu dans notre vie, qui a tué ou qui a détourné notre vie de son cours, c'est pas quelque chose qui est nécessairement visible, que les gens ne savent pas. Parfois, c'est des choses qu'on garde secrètes à l'intérieur de nous, que seuls nous savons. Seuls nous savons. Parfois même, on le cache à Dieu. Comme il y a trop de honte, il y a trop de culpabilité, il y a trop de ce sentiment d'être moins que rien, d'être si peu aux yeux de Dieu. Ce soir, c'est la mort ou la vie. C'est vous qui devez choisir. C'est la mort ou la vie. Moi, je choisis. C'est la vie. Moi, je choisis, c'est la vie. Je veux cette vie-là. Je la veux. Je veux saisir cette vie. L'apôtre Paul disait à Timothée, saisis la vie à laquelle tu as été appelé. Saisis cette vie-là. Saisis-la. Comme c'était quelque chose de si important. Bien sûr, c'est là que revêt tout le sens de la vie. Pendant qu'on va chanter quelques instants, je vais vous demander volontairement de vous approcher juste devant moi ici. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus.
Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur.
Alléluia, Jésus.
Tu es, tu es.
Alléluia. Prenez votre liberté ce soir. Approchez-vous de la source de vie. Approchez-vous, tous ceux qui vous êtes avancés jusqu'ici en avant, approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous de moi un tout petit peu. Je voudrais juste vous proposer une petite consigne, tout simplement. Beaucoup de gens arrivent, avancent comme ça. Et vous savez, moi, j'ai une formation en relation d'aide, je vous regarde, je vous vois, j'observe et tout ça. Puis, plein de gens qui sont comme ça, comme si vous attendiez le car, le bus, OK? Quelque chose qui tombe du ciel. D'autres, vous avez les mains comme ça. Vous attendez que si jamais il y a quelques petites miettes qui peuvent tomber et tout ça, je vais les ramasser. Quand on est en besoin, essayez d'imaginer un enfant qui est en besoin. Si votre enfant a besoin de vous, il va s'approcher de vous comme ça. OK? Comme si vous saute dans les bras. Comme si, maman, j'ouvre très bien afin que tu me prennes dans tes bras. OK? Je ne veux pas vous forcer à rien. Il y a des éléments de la culture dans tout ça. Mais ça serait si beau de vous voir aller chercher cette vie, la recevoir comme ça, en disant, « Seigneur, moi, j'ai besoin de toi ce soir. » Imaginez-vous que si vous avez de la difficulté à le faire physiquement, seulement juste, « Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. » Je sais que pour certains, c'est difficile. Mais imaginez-vous si physiquement, le geste est dur à poser. Imaginez-vous comment intérieurement, c'est dur et ça bloque l'accessibilité. Maintenant, on n'est pas dans des trucs ou dans des tours de passe-passe et tout ça, mais juste une manifestation physique de votre ouverture à l'intérieur. « Seigneur, moi, j'ai besoin de toi ce soir. » Donc, on va chanter encore quelques reprises. Vous qui ne me regardez pas, regardez à Jésus. Fermez les yeux tout doucement. « Seigneur, j'oublie qui est à ma gauche, qui est à ma droite. J'oublie même l'heure de mon retour. Juste quelques instants, Seigneur, je veux recevoir cette effusion de ta vie. Je veux la vie dans la vie. Je veux ta vie dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. » Laissez-moi vous entendre. Dites-le-lui. Laissez-moi vous entendre ce soir. Alléluia. Tout doucement. Tout doucement. Alléluia. Laissez-moi vous entendre. Jésus, j'ai besoin de toi. Dites-le-lui, Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu vois ma condition depuis tellement d'années. Tu vois mon état, Seigneur Jésus. Levez les bras tout doucement. Tout doucement, en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Peut-être vous vous dites, si tu avais été là, Jésus, les choses seraient différentes. Et Jésus vous dit ce soir, moi, je suis là et les choses vont être différentes à partir d'aujourd'hui. Mais dites-le-lui, laissez-moi entendre vos voix. Laissez-moi entendre vos voix tout doucement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la personne de Jésus. Je ne suis pas Jésus, moi. Moi, je suis un prédicateur de passage. Alléluia, dites-le-lui ce soir. Seigneur Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, je suis impuissant, incapable. Tu vois les drames de ma vie. Et ce soir, j'ai saisi, Seigneur, que tu me vois, que tu vois ce qui se passe. Tu vois ce qui se trame à l'intérieur de moi. Tu vois mon cœur qui s'est endurci au fil des années aussi. À cause de ce que les gens ont pu me dire, à cause de ce qui m'a été fait. Mais ce soir, Seigneur, je veux passer de la mort à la vie. Je veux passer du ressentiment à la liberté totale et entière. Je ne veux pas que ces événements qui sont survenus dans ma vie m'affectent au plus profond de moi-même. Je veux que ces événements-là me transforment, fassent de moi ce que toi, tu veux que je sois, Seigneur Jésus. Dites-le-lui. On ne peut jamais empêcher les choses de survenir dans l'ensemble d'une vie. Plein de choses se passent dans nos vies. Mais lorsqu'on a une... tout l'espace, toute la place, toute cette marge de manœuvre au Seigneur, il agit. Tout doucement dans nos cœurs, il agit. Il change ce qui est mort dans quelque chose de vivant. Il réanime les choses. Tout d'un coup, on se met à rêver à nouveau. Peut-être que vous êtes arrivé un petit peu ce soir comme ce cortège un peu funeste et funéraire et mortuaire, la mort dans vos cœurs. Mais ce soir, ma responsabilité, c'est que vous ne sortiez pas d'ici dans le même état. Voilà pourquoi je plaide auprès de vous en disant, il est l'auteur de la vie. Il appelle les choses qui n'étaient pas pour qu'elles deviennent, pour qu'elles viennent, pour qu'elles se produisent. Ne fermez pas votre entendement ce soir. Ne fermez pas votre esprit à ces choses. Mais ouvrez très, très grand vos cœurs en disant, Seigneur Jésus, je sais que c'est toi qui es l'auteur de la vie. C'est toi qui es la résurrection et la vie, la plénitude de la vie. C'est toi, Jésus. T'es la vie, t'es la vie, t'es la vie. Toute parcelle de vie, c'est une manifestation de qui tu es, Jésus. Et tu réanimes toutes choses. Laissez-moi entendre vos voix, même vous tous en arrière. En intercession pour ces gens qui sont en avant, qui ont fait ce pas en disant, Seigneur, j'ai besoin de me rapprocher de toi, d'avoir cette touche de vie dans ma vie. Alléluia. Laissez-moi vous entendre. Laissez-moi vous entendre jusqu'ici. Laissez-moi vous entendre. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Seigneur, touche mes frères, touche mes sœurs. Touche-les, Seigneur. Que cette effusion de vie, que ce soit une explosion de vie dans ce lieu, tout simplement. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin d'une percée dans nos vies, Seigneur. On a besoin d'une percée dans nos vies, Seigneur. Que tu te présentes à nous, que tu te révèles à nous, que tu changes les choses en nous, Seigneur. On a besoin de toi ce soir. On a besoin de toi ce soir, Seigneur, pour passer de la mort à la vie. Pour passer de la mort à la vie. Seigneur, Seigneur, roi des rois et puissant sauveur. Seigneur et Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses, la mort, la vie est plus forte que la mort. La vie de Jésus est plus forte que tout ce qui nous a atteint, que tout ce qui nous a blessés, peu importe la trahison, le rejet, peu importe les blessures, peu importe les paroles assassines qu'on a eues, la vie est plus forte que cela. La vie est plus forte que cela. La vie, elle est plus forte que cela. La vie de Jésus, elle est là. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Viens par ton esprit en ce moment. L'esprit de vie. L'esprit de vie. Saint-Esprit, viens à ce lieu en ce moment. Esprit de vie. Toi qui donnes la vie à toutes choses. Seigneur, par ton esprit, Jésus. Alléluia. Touche ces hommes et ces femmes, Seigneur. Jésus, je t'en prie, Jésus, je t'en prie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sentez cette vie. Alléluia, alléluia, Seigneur. Seigneur et Seigneur. Oh Jésus, prince de vie. Tu es le prince de vie. Tu donnes la parole de vie. Oh, alléluia. Tu donnes la vie à toutes choses, Seigneur Jésus. Par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur Jésus. Par ton esprit, Seigneur Jésus. Touche. Touche par ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Sentez sa présence ce soir, tout simplement, Seigneur Jésus. On est bien dans ta présence, Seigneur. Tu ranimes toutes choses, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus donne la vie. Jésus change le cours de la vie. Amen. Jésus change le cours de la vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, par ton esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Dites-le-lui ce soir, tout doucement, Seigneur. Dites-le-lui, même ces choses que vous n'osez pas lui dire. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Seigneur, prends ma douleur, prends ma souffrance, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu nous aides à triompher des revers de la vie. Alléluia, par ton esprit, Jésus. Fais cette œuvre, Seigneur. Alléluia, Jésus, 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 par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. On est bien à ta présence, Seigneur. On est bien à ta présence, Seigneur Jésus. Merveilleux Sauveur. Seigneur, on le sait. On le sait que tu es ici, Seigneur. Jésus, on sait que tu n'es pas inconscient de notre condition. Tu n'es pas insensible à notre condition, Seigneur. Mais tu es ému devant ce qu'on vit. Tu es ému face à toutes nos situations, si perplexes soient-elles. Alléluia, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es notre seule espérance. Tu es notre seul espoir dans ce monde, Seigneur Jésus. Et nous avons besoin de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi. Seigneur Jésus, je te prie en conclusion ce soir pour l'ensemble de tous ces gens qui sont ici, mais spécialement pour ceux qui sont avancés en avant, ici devant moi, Seigneur. Tu vois leurs conditions, tu vois leur situation, Jésus. Seigneur, ma prière, c'est que tu les touches profondément, qu'une empreinte de ta présence si forte soit en elle, qu'ils quittent ce lieu ce soir en disant, j'ai compris que je n'ai pas me laissé abattre parce que la vie m'a apporté, ou par mon passé, ou par ma condition. Et j'ai compris ce soir que la vie est plus forte, elle est vraiment plus forte. Et Seigneur, je vais élever ma foi vers toi, en sachant qu'au-delà de ce que je vis en ce moment, qu'au-delà de ce qui m'est arrivé, de ce qui est survenu dans le passé, il y a une autre vie, il y a une vie que toi tu dessines, que toi tu planifies, que toi tu prépares. Et elle commence en ce moment. Elle se poursuit pour certains en ce moment, mais pour d'autres, elle commence en ce moment.